Salut à tous, chers rulebistes, chers vieux cons et vieilles connes. Vous écoutez le deuxième épisode de C'était mieux avant, un podcast qui veut vous en apprendre plus sur l'histoire de Solvay et ses initiatives étudiantes, cercles, bureaux, guildes et toutes les autres. Aujourd'hui, on vous en apprend plus à propos de la Saint-Veragen. Pourquoi le 20 novembre? Qu'est-ce que cela signifie? Etc. C'est le premier épisode à thème et avec votre soutien, on en fera encore plein d'autres. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Bonne écoute! C'était mieux avant et on va vous expliquer pourquoi. Je m'appelle Gary Mizrahi et je suis en compagnie de Mathias Roulens.
Salut!
Et de Pierre Brancard.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, on va vous parler de la Saint-Veragen, a.k.a. la Saint-V, la grosse teuf du 20 novembre, en commençant par la fondation, pourquoi est-ce qu'on se rassemble, d'où vient le mot Saint-V aussi. On va passer un petit peu par tout ce que vous devez savoir sur la Saint-V pour en passer une excellente. Et je vais laisser du coup Mathias parler de 1834.
Et oui, cette date du 20 novembre 1834, elle est assez importante pour comprendre ce que c'est la Saint-V, mais aussi pour l'Université libre de Bruxelles, parce que c'est le 20 novembre 1834 qu'a lieu la toute première rentrée académique de l'Université libre de Bruxelles, à l'époque Université libre de Belgique.
Quand tu dis rentrée universitaire, c'est que les étudiants, ils ont eu cours le 20 novembre? C'était la rentrée comme ça?
Les étudiants avaient déjà cours, notamment dans certaines facultés, comme la faculté de médecine, un peu avant. Mais effectivement, le 20 novembre, c'est la rentrée académique qui existe encore aujourd'hui. Donc c'est la cérémonie un peu protocolaire par les autorités académiques, qui se tient à ce moment-là à l'hôtel de ville de Bruxelles et qui lance officiellement l'année avec les 96 premiers étudiants dont on a parlé au podcast précédent.
Alors, Saint-Veragen... Le 20 novembre, oui, mais aussi Veragen.
Pierre-Théodore Veragen, donc c'est le fondateur de l'université. J'espère quand même que même les chatons qui nous suivent ont entendu ce nom-là.
Certains fossiles nous écoutent.
Eux, peu de chance. Mais Monsieur Veragen est le fondateur spirituel, la première cheville ouvrière de l'Université libre de Bruxelles. Il va en être secrétaire, une sorte de président, mais ça n'existait pas dans ce terme-là à l'époque. Et c'est lui qui va véritablement lancer les travaux nécessaires à la fondation de cette université et à la poursuite dans le temps, puisque l'université, ça ne se lance pas en 10 ans. Et il va occuper ses fonctions pendant les premières années pour lancer l'activité.
Alors, on parle souvent de Théodore Veragen, et à juste titre d'ailleurs, mais il ne faut pas aussi oublier la contribution de Auguste Baron, qui, comme Théodore Veragen, était membre de la loge franc-maçonnique des Amis Philanthropes, et qui ont donc fondé cette université à deux, même si Auguste Baron s'en est détaché quelques années après.
Auguste Baron, c'est un peu le théoricien, celui qui a idéalisé cette université, celui qui l'a créé sur le papier, qui a été la première énergie, qui a été voir Pierre-Théodore Veragen, qui était à ce moment-là son vénérable maître à la loge franc-maçonnique, pour lancer les travaux. Il va porter le projet pendant les premières années, mais dès 1836, donc on est seulement 2 ans après les débuts, va finalement un peu renier l'enfant duquel il a accouché. Et je pense même qu'il finira professeur à l'université de Liège et va vraiment se détacher de l'ULB.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée d'une université libre, elle trottait déjà dans la loge depuis quelques années quand même, depuis 1831 selon certaines sources, mais en fait elle a été accélérée par la fondation d'une nouvelle université en 1834, qui est la fondation de l'Université catholique de Malines, sous l'impulsion des évêques de Belgique. Et donc le fait qu'il y ait une nouvelle université catholique qui se crée alors qu'il n'y avait pas encore d'université libre en Belgique, ça va un peu accélérer la fondation de l'Université libre de Bruxelles.
Ce qui deviendra l'UCL, c'est cette université qui prétend dépendre immédiatement du pape, donc des enseignements de l'Église, et c'est quelque chose que l'intelligentsia bruxelloise de l'époque, qui est en grande majorité franc-maçonne, mais qui est libérale, qui est issue de la bourgeoisie, ne va pas tout à fait accepter. Ce sont également, pour la plupart, des catholiques, des croyants, mais qui croient en la liberté, en tout cas, de penser, au libre examen, même si le terme n'est pas encore utilisé à ce moment-là, et du coup à l'indépendance des études de la pensée catholique.
Du coup, moi j'avais une petite question, c'était déjà qu'est-ce qui est devenu cette université de Malines, mais est-ce que j'ai bien compris ou pas, mais c'est devenu l'UCL?
En fait, à l'époque, il y avait donc, au sortir de la Révolution, c'était un peu le bordel.
Ouais.
Et il y avait 3 universités d'État. Il y avait l'université de Liège, l'université de Gand et l'université de Louvain. Et après la fondation de l'Université libre de Bruxelles et de l'Université catholique de Malines en 1834, en 1835, un décret va être passé. Pierre, tu me coupes si je me trompe, mais en 1835, donc, une loi va être passée et l'Université catholique de Malines va remplacer l'Université d'État de Louvain et, par la même occasion, prendre tout l'héritage qu'avait l'Université catholique de Louvain à l'époque, héritage qu'elle a encore aujourd'hui, alors que c'est pas réellement justifié, voilà.
une université sur le sud de Louvain, ça existe déjà depuis, je pense, le 12e siècle, donc c'est très ancien. Mais effectivement, la révolution brabançonne d'abord, puis l'indépendance de la Belgique en 1830, vont un peu précipiter les choses et modifier très fort la manière dont sont gérées les universités, qui sont des organismes d'État d'abord, contrôlés par Guillaume d'Orange à ce moment-là, et qui vont devenir des universités indépendantes, ou sous le contrôle du roi, enfin, plusieurs systèmes vont coexister.
Alors, juste pour revenir un petit peu plus centré sur la Saint-Vé, est-ce que vous me coupez ou bien vous revenez un petit peu si je vais un petit peu trop vite, mais est-ce qu'on peut expliquer juste pourquoi est-ce qu'on est juste tous ensemble là à chaque fois à se rassembler à des endroits? Je ne sais même pas si l'endroit est important. Enfin, expliquez-moi un petit peu et retournez un petit peu en arrière si je vais un petit peu trop vite. Hein, mais
Alors, on peut se douter que déjà à l'époque, les étudiants se rassemblaient le jour de la Saint-Vé, même si c'était rien d'officiel. Tout simplement parce que dès la fondation de l'ULB, le 20 novembre est décrété jour de congé.
Donc énorme teuf.
En tout cas, rassemblement dans les...
on peut supposer énorme teuf.
Rassemblement dans les cafés et bars qui partent souvent en énorme teuf. Et ça va être vrai de la création de l'UAE, donc l'Union des anciens étudiants qui se fait...
En 1843.
Dès que les premiers étudiants sortent de l'université, et se poursuit encore maintenant dans l'idée, simplement l'envie des anciens de se retrouver et de ceux qui sont en vacances d'en profiter.
Ça va.
Alors oui, justement, bon, on va reparler de la création de l'UAE, donc, qui se passe en 1843. Alors, à l'époque, on pense qu'il y avait surtout des retrouvailles entre anciens de l'ULB, même si on suppose que les étudiants se retrouvaient déjà. Mais on n'a pas encore vraiment de traces de réel cortège. Et donc, on sait que les anciens se retrouvaient dans des cafés et qu'en fin de journée, ça se terminait souvent par un banquet donc qui devait être organisé par l'UAE. Et donc, par exemple, ici, j'ai sous mes yeux le banquet qui s'est tenu le 20 novembre 1859. Donc, il y a déjà un peu de temps quand même. Et donc, on voit qu'il y a un premier service avec des huîtres, des entrées, avec des filets de bœuf, etc. Donc...
Genre de la bonne bouffe, quoi, pas du
De la bonne bouffe,
quoi.
Pas... on est loin du banquet gaulois de la semaine folklore, quoi.
J'adore. Ok, donc ça, c'est juste... Donc à la base, c'était 20 novembre, prétexte pour teuf, car congé, quoi.
Oui, c'est
et fêter la création, parce que c'est
l'envie
bien,
de commémorer, ça va commencer à se ritualiser, ou en tout cas à prendre une apparence comme on la connaît maintenant, avec ses cortèges, ses chants, etc., en 1884, pour les 50 ans de l'Université libre de Bruxelles, où les étudiants vont lancer un grand congrès universitaire avec des conférences, des sorties, des soirées, inviter des étudiants d'un peu tout le pays à venir célébrer ensemble ce 50e anniversaire. Et là, j'en profite pour vous renvoyer vers le blog en Bordeaux et Bleu, que vous pouvez trouver sur internet, avec un très bel article sur ces fêtes du jubilé et qui décriront un peu ces premières évocations de ce qui ressemble finalement à la Saint-Vé actuelle.
Oui, d'ailleurs, si vous voulez retrouver l'article sur En Bordeaux et en Bleu, je l'ai juste devant moi. Juste vous tapez 1884 dans la barre de recherche et vous le trouvez.
Mais au pire des cas, c'est ça. En fait, comme on a fait pour le premier podcast, c'est une petite aparté qu'on va faire ici, on va essayer de vous mettre un maximum d'archives qu'on a en ligne et tout ça, disponibles pour vous, sur les différents groupes ou bien sur le site Cercle Solvay. Elles sont disponibles ?
Oui, tous les liens nécessaires.
C'est bon, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour suivre ce podcast à merveille.
Mais à ce moment-là, ça ne s'appelle pas encore Saint-Vé.
Et oui, et on arrive à une date charnière pour la Saint-Vé, puisque, vous l'aurez deviné, en 1888 apparaît l'expression Saint-Vé. Alors, elle vient, et Pierre, encore une fois, tu me coupes si je raconte des conneries, mais à l'époque, donc, les étudiants jugent que l'autorité de l'université est antidémocratique, et souhaitent donc manifester contre cela. Et pour ça, ils décident justement de revenir aux sources de l'ULB, que sont le libre examen et Theodor Verhagen. Et donc, c'est pour ça que va apparaître l'expression Saint-V.
Bah, je veux bien qu'il ait un petit peu, comme tu nous as expliqué, Pierre, renié l'ULB, Auguste Baron, mais... Alors, c'est pas correct. Enfin, il a quand même participé à la création de...
Pas renier, c'est-à-dire qu'il va être la cheville ouvrière des premières années et du lancement, mais c'est Verhagen qui va porter l'université. Et même à l'époque, si on demandait à un étudiant, je pense, voilà, qui est le patron de l'ULB, c'est Verhagen. Enfin, si vous lui dites okay, l'ULB, il comprendra pas, mais c'est Verhagen qui va occuper les fonctions de secrétaire, etc., pendant plusieurs années, et qui va porter les travaux... En moi-même, Auguste Baron va finir par abandonner l'université, il va quitter la loge des amis philanthropes, il va quitter l'ULB, il va quitter Bruxelles. Pour les raisons ne sont pas très bien documentées, il faut lui rendre grâce d'avoir participé et d'avoir aidé à cette création.
C'est pour ça qu'on le cite d'ailleurs.
Mais c'est le nom de Verhagen qui va rester indéniablement. Et c'est ça sa statue qu'on retrouve devant le palais Granvel, donc quand l'université était centre-ville, et qui est maintenant la même statue devant le bâtiment A.
Ok, ça va. Donc là, du coup, tu me dis qu'en 88, il y a l'expression la Saint-Verhagen qui arrive.
Oui, et on va avoir un rassemblement d'étudiants avec les drapeaux des différentes associations étudiantines qui existaient déjà.
Et est-ce que tu sais combien il y en avait à l'époque ?
Il y en a. Alors, il y avait environ 1400 étudiants, et ce jour-là, donc pour la première Saint-V, ils étaient 200.
Pour la première Saint-V, ils étaient 200. Est-ce que. Pour les fossiles qui nous écoutent, est-ce que c'est un bail de baptisés ou pas ? Parce que je sais qu'à l'époque, il y avait énormément de baptisés en proportion...
À ce moment-là, ils sont tous baptisés.
Ils sont tous baptisés, ouais.
Ceux qui ne sont pas baptisés ne s'y intéressent pas ou n'ont pas l'affect nécessaire pour fêter la Saint-Verhagen. Il y a peut-être quelques intrus, j'ai envie de dire, qui s'y pointent. Mais la plupart, ce sont des professeurs, ce sont des anciens qui sont tous passés par une forme de baptême ou une intronisation à l'université. En 88, il me semble qu'il y a peut-être les deux premières femmes qui ne sont pas baptisées, mais à mon avis qui participent aux festivités malgré tout. Mais non, tout le monde a suivi les mêmes rythmes, tout le monde est issu de la même école. Et c'est suffisamment petit pour que ce soit encore quasiment familial. Y a déjà quelques associations étudiantes, c'est-à-dire que les drapeaux à ce moment-là, avoir le drapeau de son association, de son cercle, etc., c'est hyper important. Il ne faut pas le perdre, sinon on se fait charrier pendant des décennies, mais à ce moment-là, oui, on peut retrouver le cercle polytechnique, l'Assemblée générale des étudiants,
le cercle de pharmacie,
le cercle Borin, mais il y a un épisode spécial là-dessus à venir.
Donc le drapeau qu'on a là au PH, il date de quand ? Il est récent, c'est pas le drapeau de notre cercle.
Alors ça...
Le drapeau, il est marqué depuis 1904 ?
Celui-là, oui.
Un sujet un peu sensible. Non, nous, on a ce drapeau-là est effectivement assez récent, mais les cercles ont arrêté les drapeaux dans les années 2000. Genre, tous les drapeaux sont un peu perdus ou sont tombés en poussière, etc. Et c'est assez difficile d'en retrouver. Mais à ce moment-là, je suppose que le cercle aussi, à son apparition en 1905, a dû avoir son drapeau. Ah oui, son drapeau, oui, parce qu'il y a une anecdote qui viendra là-dessus. Et c'est vrai. Mais la Saint-Verhagen, donc celle le 50e anniversaire de l'ULB dont on parlait tantôt, les étudiants vont recevoir un drapeau de la ville de Bruxelles en signe de témoignage 50 ans. Et donc, vraiment, le concept de drapeau est assez important dans l'idée du cortège. C'est celui qu'on suit, on se rassemble sous sa bannière, on est en monôme, on défile dans la ville et on en est fier. Donc, c'est pas reprenante des festivités.
Et donc voilà, ces différentes organisations se rassemblent avec leur drapeau devant la statue de Theodor Verhagen, donc à l'époque rue des Saules, près des galeries Rundstein, et puis ils vont déposer une couronne de fleurs sur sa tombe, et donc ça c'est en 1888, 2 ans après il y a les autorités académiques qui les rejoignent, donc ça devient vraiment une fête officielle et académique. Et dans les premières années, c'est un monôme d'étudiants.
Un monôme, c'est un défilé.
C'est une, oui, c'est une
à peu près à la queue leu-leu, mais version un peu plus désordonnée, plus braillarde que ce qu'on peut imaginer.
C'est une file indienne avec une fanfare, quoi.
Est-ce que la queue leu-leu existait déjà à l'époque ?
Je ne pense pas.
On me dit que Patrick Sébastien n'était pas né.
Contrairement au roi.
Ok, on coupe.
ok, une petite question ici. Tu dis qu'ils ont été déposés une couronne de fleurs sur la tombe de Théodore. Est-ce que tu peux peut-être rappeler quand est-ce qu'il est mort ?
1862, non?
Ouais.
Ça va.
Non, il me semble que c'est ça, parce que...
Je pense que c'est 1862, oui.
60 ans avant Solvay. On coupera, hein.
Ouais, bah écoutez...
62, oh. Très beau.
Super, belle, ah. Bravo.
Un 8 décembre, donc un peu avant, quelques années avant la première vocation du cercle Solvay.
Oui, parce que pour savoir, en gros, les gens...
Non, ça, on va couper, je pense, ce petit passage-là.
Les gens normaux comptent avec Jésus-Christ, donc 2020 après Jésus-Christ. Les musulmans parlent de Mahomet. Les Romains parlaient de la fondation de Rome. Nous, on parle de la fondation du cercle Solvay. Moi, je suis né 94 ans après la fondation du cercle Solvay.
Il y a moyen de développer tout un bail.
Mais moi, du coup, je suis né 92 après cercle Solvay. Ouais.
T'es un ancien.
Je suis un ancien. Exactement.
Alors, petite digression. Mais on arrive très vite à la Première Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui se passe pendant la Première Guerre mondiale?
Mais il y a la guerre.
Il y a la guerre, déjà. Mais il y a quand même toujours le 20 novembre. Et donc, les étudiants, les étudiants, mais aussi les membres du corps académique, dans une volonté de se retrouver, eh bien, vont quand même célébrer cette Saint-V dans un hôtel à La Panne. Et donc, on ne connaît pas grand-chose là-dessus, mais c'est une anecdote qui nous paraissait assez importante pour l'évoquer. Et on sait aussi que même si à l'époque, on est dans le cadre militaire très très strict, eh bien, les officiers côtoyaient les soldats, et à ce moment-là, il n'y avait plus de grade. Quoi.
Il faut imaginer cette volonté de militaire, que ça va du simple troufion au général, je ne sais pas s'il y a des généraux issus de l'ULB, mais dans l'idée, qui, en plein milieu d'un conflit, vont avoir comme première pensée de se rappeler de leur alma mater, de l'université, et d'avoir envie de le fêter, de trouver un lieu, et de trouver de quoi le célébrer un minimum. Et c'est ça qui est assez exceptionnel avec la Saint-Varagan. On verra les éditions qui n'ont pas pu avoir lieu, mais il y a une volonté des étudiants de maintenir cette festivité qui leur tient à ce point à cœur, qui est incroyablement louable, même durant les temps les plus difficiles.
Peut-être petite question conne, mais à l'époque, le service militaire, il était obligatoire.
Oui.
Ok, donc du coup, ils se retrouvaient tous d'office, que ce soit après l'université ou parfois avant, si jamais ils décidaient.
Il y a un service de dérogation, donc les universitaires, me semble, peuvent décaler de quelques années. Mais oui, ils finissent tous par le faire. Le service militaire en Belgique est abrogé dans les années 80, je vais dire de bêtises, mais dans ces années-là, donc c'est très très tard.
Ok. Donc là, on arrive dans la période de l'entre-deux-guerres. C'est de 1918 à 1938.
Oui. Et c'est à cette période que vont apparaître les premiers chars. Alors, c'est un truc auquel on pense pas directement. Enfin, moi, je me souviens que ça m'avait marqué, mais c'est peut-être parce que je suis un débile. Mais les premiers chars, eh bien, ils sont tirés par des chevaux de trait, parce qu'à l'époque, ben, il n'y avait pas de camion.
Attends, enfin, ah oui, ok. Ouais,
et donc, c'est vraiment des chars, quoi.
On a d'ailleurs acquis une photo qui griffonnait au dos « Premier char se levait ». Mais c'est assez difficile à authentifier parce qu'il n'y a pas tellement de descriptions de notre char. Ça représente plus ou moins une locomotive, elle sera sur le site. Mais voilà, le premier char pourrait dater d'environ 1928 pour le cercle. 1923, pardon, pour le cercle Solvay. Et avoir son char, c'est un peu avoir sa place dans le cortège et c'est affirmer une certaine position de cercle. Tous les cercles n'ont pas le luxe de construire et d'avoir les moyens pour.
Du coup, on a quand même mis une bonne grosse vingaine d'années à se faire une grosse place, quoi.
Non, avant la première guerre, j'ai pas de traces de
char. Il y avait
char.
Pas encore de char. Il y avait encore de char,
c'était
pas.
Non, c'est simplement de la délégation joyeuse. Et après la première guerre, on commence à un peu. Ça se ritualise, ça vraiment prend l'importance. Et les cercles se baladent avec leurs chars. En plus grand nombre, etc.
On peut se douter que l'apparition des chars, elle est due au CP qui a encore voulu se la péter.
Mais j'allais poser cette question-là. À quoi ça sert de faire un char? Est-ce que c'est pour montrer peut-être quelque chose dont le cercle s'indigne ou bien dont le cercle est fier ou... Enfin, je sais pas.
Mais je pense qu'il y a en fait le côté festif, donc le côté vraiment fanfare. Il y a de la musique, c'est bien qu'il y ait des chars. Donc il y a la volonté de se montrer aussi, on est fier de son cercle, on est fier de son université.
Mais est-ce qu'il y a un message derrière tout ça ?
Il y a souvent un thème, les premiers chars du cercle Solvay vont représenter les talons or, donc si vous êtes à Solvay, vous devriez saisir, les rois fainéants, qui sont une parodie du régime politique de l'époque. Il va y avoir pour le cercle polytechnique des représentations de systèmes alambiqués de grandes statues qui sont des automates, il va y avoir des locomotives pour représenter, il va y avoir des chariots de mine, etc. Donc les chars vont, selon les époques, être soit représentatifs pour démontrer un certain talent de construction, de décor, ou des revendications politiques, comme on le verra plus tard.
Ok, mais donc du coup, cette année et les années précédentes, enfin depuis que je suis à l'UNIF, je sais qu'il y a un thème associé à la Saint-V. Est-ce que ça a toujours été le cas ou pas?
Bah, je suppose que les thèmes apparaissent plus ou moins au moment des médailles, puisqu'il y a une idée qui se dégage, ou en tout cas une revendication des étudiants, puisqu'on sait dans nos premiers caducés de 1939 que les festivités ne sont pas annulées, mais converties en tout cas pour récolter des fonds à destination à ce moment-là pour la guerre espagnole.
Pour les familles qui, les familles mobilisées.
Pour les familles mobilisées, etc. Et donc à ce moment-là, oui, la Saint-V a un thème, ou en tout cas une volonté d'avoir un côté social également. Au sortir de guerre, déjà un peu avant, il me semble, mais je peux me tromper, le Bruxelles Universitaire, qui est le journal par excellence de toute ULB, est vendu par les étudiants aux bourgeois, c'est-à-dire aux gens qui ont les moyens et qui ne sont pas à l'université, afin de récolter des fonds, et c'est un peu l'ancêtre de notre quête sociale que les Bleus font lors de la première semaine après leur baptême pour récolter de l'argent. Ces dernières années, il me semble que c'était contre le sans-abrisme, contre...
Oui, mais du coup, la volonté sociale et en même temps les thèmes sont ancrés vraiment dans l'histoire de la Saint-V. Et même si c'était pas défini, il y avait quand même une volonté d'harmonie.
Salut, salut, c'est la post-prod. Après avoir tourné le podcast et grâce à votre aide, on a eu l'info via Julie de Gosselies, baptisée en 91, comme quoi la quête sociale, comme on la connaît aujourd'hui, a été instaurée par le comité ACE, dont elle faisait partie aux alentours de 1996. Donc l'idée de base était de faire collecter des sous par des togés via les bleus fraîchement baptisés et les poils et plumes, qui allaient ensuite être reversés à une association choisie par ce même comité ACE. Donc voilà, petit aparté fait, bonne continuation.
Voilà.
Ok.
Alors, dans cette période, on peut aussi citer le fait que maintenant on va fixer que le côté académique sera le matin et le côté folklorique l'après-midi.
Ce qui pose souci quand les discours d'ailleurs du matin durent trop longtemps et qu'on est en retard pour arriver au sablon. Hein. Expérience vécue, mais c'est fâché. Assez frustrant. Bonsoir Lara Sodio. il arrive que les présidents de cercle sèchent la fin des discours parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas assister au début.
Je vais pas le dire.
Et si le petit train traîne trop, le petit train c'est le train que prennent les présidents pour la journée qui est la leur. Voilà.
C'est à peu près tout pour l'entre-deux-guerres. On va passer, après l'entre-deux-guerres, à la guerre. Et donc oui, comme Pierre l'a dit, à partir de 1938, la Saint-Veragen est annulée, mais la collecte continue. Donc collecte au profit des familles de mobilisés. Pas de Saint-V en 1940 ni en 1941, vraisemblablement. Mais en 1942, à l'hôtel Rembrandt à Londres, et en 1943, à l'Université de Londres. Donc quand même, malgré la guerre, et comme à la panne, une volonté, même si on n'est plus sur le sol belge, de se rassembler et de fêter l'université.
C'est quand même dommage qu'ils n'ont pas suivi un peu ça, les Anglais. Enfin, je suis sûr que ça leur a plu, du coup, de faire la fête.
Oui, leurs officiels étaient sûrement invités, mais il faut se dire que c'est aussi une volonté de l'ULB de marquer qu'elle est présente dans ces temps de conflit. L'ULB est excessivement impliquée dans les activités de résistance, de sabotage, etc., contre l'occupant en Belgique. Et du coup, il y a un hommage rendu à ces militants, à ces résistants depuis Londres. Et il y a le souvenir d'une unité de valeurs partagées qui est célébrée au-delà des frontières, peu importe le lieu, parce que l'important, c'est qu'ils soient ensemble. Et ça, on aura à nouveau l'occasion d'en discuter sur un épisode spécial Seconde Guerre mondiale.
Et quoi, donc du coup, il y a énormément d'étudiants de l'ULB qui sont partis du coup se réfugier, j'imagine, vers l'Angleterre.
Des anciens,
Exactement.
Des soldats mobilisés aussi.
Des soldats aussi, mais et quid des autres pays? Il n'y a pas eu... Il n'y a pas de traces de ce qu'il y a eu dans d'autres pays, parce que j'imagine qu'ils ne pouvaient pas tous aller...
Les archives, à mon avis, concernant la Seconde Guerre mondiale, pour avoir déjà essayé de creuser le sujet, sont excessivement nombreuses et excessivement éparses. Du coup, ce n'est pas évident de s'en rendre compte. Et Londres est à ce moment-là le centre névralgique de l'Europe libre. Donc c'est de là qu'on a le plus d'informations. Et c'est là qu'il y a le la plus grande concentration de Belges qui se réfugient. Donc il y a certainement eu, on sait qu'il y a eu des CINV aux États-Unis également, mais qu'il y a aussi des CINV organisés en temps normal aux États-Unis parce qu'on a énormément d'alumni qui traînent. Et voilà, on a des anciens qui célèbrent la CINV de là-bas.
Sérieux ?
Oui, non.
Je kiffe.
L'envie de célébrer et de se souvenir d'où on vient, c'est peu importe le moment, peu importe le contexte, peu importe les années.
Mais en fait, juste pour savoir s'il y en a eu dans d'autres endroits, pose-toi la question de si toi, à l'époque, ça avait été le 20 novembre et tu aurais été avec même 3, 4, 5 personnes de l'ULB, est-ce que tu l'aurais fait ?
Je pense bien, ouais.
Voilà.
C'est une fin de rêve.
Merci de me recadrer, mec.
C'était pas l'objectif, désolé.
Pas grave. Donc, du coup, après 45, il se passe quoi ?
Alors, le cortège va de plus en plus ressembler à celui qu'on a aujourd'hui. Il va notamment y avoir un gros changement, c'est qu'en 1963, on va commencer à se réunir à l'enclos des fusillés, donc l'ancien endroit du tir national, où 18 étudiants ont été fusillés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en hommage à ces héros, eh bien, le cortège va démarrer de là-bas. On continue d'aller sur la tombe de Theodor Verhaeghen à Évreux et on va commencer à passer devant la statue de Ferrer qui va être installée elle aussi en 1980, je pense.
Ça, enfin, je ne saurais pas.
Le cortège va de plus en plus s'affiner et de plus en plus se figer. On peut parler de la CINV de 1975.
Juste avant, j'aimerais parler de la CINV 68-69, parce qu'à ce moment-là, donc, le Cercle de Sciences Économiques, fusionné avec nous en 2009, va devenir indépendant du CPS à ce moment-là. Et on a des photos de cette époque-là, qui ne sont pas datées, mais on reconnaît à la thématique des chars que c'est sous le gouvernement Gaston Eskens IV, donc en 68-69, avec les affaires qui concernent justement l'université de Louvain. Et donc on a les chars la première sortie du cercle de sciences économiques en tant que cercle indépendant, et donc leur célébration dès le début très vivace.
Est-ce qu'on va pouvoir mettre sur le site ?
Les photos sont déjà sur le site.
Ouh, trop bien, à l'aise, ça va. Mais du coup, Mathias, tu allais dire. Tu allais embrayer sur quoi ?
Sur la CINV de 1975, donc qui est une des rares CINV à avoir été annulée. Elle a été annulée à cause du projet de loi Humblay de Croo, donc de Croo le papa du de Croo actuel, qui donc était un projet de loi qui, comme à chaque fois qu'on veut faire des réductions de coûts, on va taper sur l'enseignement. Là, le projet, c'était de réduire donc, les engagements dans l'université. Donc on n'engage plus d'assistants, on n'engage plus de professeurs, on gèle les salaires. Et on revoit drastiquement les conditions pour obtenir une bourse. Et donc, beaucoup moins d'étudiants allaient pouvoir étudier, tout simplement. Et à ce moment-là, la CINV va être annulée.
Il faut savoir qu'en plus, on est en plein boom du nombre d'étudiants à l'université. Et donc, c'est vraiment un changement de politique drastique. À noter que juste avant 75, on est dans les années 73-74, on a une CINV qui a failli être annulée. Mais ça, c'est un cas plus spécifique à Solvay. Qui a été raconté dans les cas du C, mais qui nous a aussi été raconté par les protagonistes eux-mêmes à la CINV en ligne de cette année, puisque M. Biltiot, qui était président de Cercle à ce moment-là, et M. Erali, qui était président de Baptême, qui finiront tous deux doyens de l'école incroyable, vont oublier la CINV Reagan, c'est-à-dire qu'un matin, ils se lèvent, pas de char, pas de préparation. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est le comité qui encadre et se charge de la CINV. Et on a plus ou moins oublié, donc on va bricoler avec une camionnette, quelques décors et sûrement quelques fûts, une CINV alternative pour quand même pouvoir se pointer et la faire joyeusement. Et à n'en pas douter que ce fut une des CINV les plus chaotiques, mais aussi les plus joyeuses qui était célébrée.
Ça devait être très très drôle d'y être.
Je sais pas si la décharge existait déjà à cette époque-là.
Anecdote incroyable cependant.
Donc 73-74, ça a failli être annulé ?
Dans ces années-là, ouais.
Et 75 enfin,
pour
annulé.
Solvay, quoi.
Ouais, pour Solvay.
Et 75, c'est annulé.
Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment annulé en 73 ? Elle a été oubliée.
Oui, on a oublié la CINV, on peut le dire.
Donc d'accord, et de 75 à maintenant, est-ce qu'il y a des événements notables par rapport à la CINV ?
2015,
la CINV va se poursuivre de manière très classique, très, très protocolaire, donc réunion académique le matin, sablon et cortège l'après-midi, jusqu'en 2015 et les événements qu'on connaît.
Ben oui, du coup, en 2015, vous le savez tous, vous étiez là. Il y a eu quand même des événements terroristes qui se sont produits à Bruxelles. Et donc, à la base, la Saint-V, juste les festivités devaient être annulées, mais le TD devait être maintenu, ainsi que les événements académiques du matin. Et finalement, le matin même, on décide de tout annuler. Et cette Saint-V, elle ne sera pas sans conséquences, puisque après cela, c'est la disparition des chars. Alors, chars qui posaient quand même déjà problème avant, puisqu'il y a déjà eu...
Il y a eu des accidents,
certains étudiants morts parce qu'ils tombaient des chars, sûrement qu'ils ont glissé. Un étudiant mort, mais...
Les chars sont automatisés, donc plus tirés par des chevaux, mais ça depuis quelques années. Le cortège sans doute s'alcoolise davantage, ou en tout cas la foule est beaucoup plus nombreuse. On parle de 200 étudiants à la première Saint-V. Je pense qu'on doit être près de 3-5 000 à défiler sur le sablon en une journée. Du coup, les mesures de sécurité sont plus compliquées également. Et les chars représentent aussi leur lot de dangers à rouler entouré d'étudiants avinés.
Non, c'est vrai.
Mais joyeux.
C'est vrai, tu as raison. Donc, du coup, 2015, ça a changé un petit peu notre le moyen de. Enfin, pas le moyen, mais genre, ça a changé la manière de fêter la Saint-V. Du coup, on enlève les chars. Et du coup, la Saint-V de 2015 a été annulée. Mais j'imagine à raison, parce que c'était dangereux. Voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose encore à dire sur la Saint-V de 2015.
Mais donc du coup, après 2015, en fait, on arrive sur la Saint-V qu'on connaît maintenant, donc avec le sablon, avec tous les stands et avec cette espèce d'énorme village de guindailles où tout le monde s'alcoolise.
À noter que depuis 69 et l'indépendance de la VUB, donc notre équivalent flamand, les cercles flamands font la Saint-V avec nous au même endroit, le même jour, évidemment. Le stand du cercle se tient à côté du stand du SK, le Solvay-Kring. Et du coup, nous fêtons ça tous ensemble. Et c'est pour ça que nous sommes encore plus nombreux, puisque nous sommes deux universités systématiquement réunies, et on l'oublie parfois.
Non, c'est vrai, mais d'ailleurs, c'est très très chouette de la fêter avec eux. Mais donc, du coup, là, on parle en 2015 d'une Saint-V annulée. Et j'aimerais peut-être amener un débat. Est-ce que la Saint-V de 2020 a été annulée ou pas ? Donc, on en a vite fait parler au premier podcast, je pense. Mais là, je me demande vraiment si est-ce qu'on peut appeler ça une Saint-V annulée ou pas.
Je pense que ça restera dans la mémoire comme une Saint-V annulée, pas pour l'occupation qu'on a pu développer pendant la Saint-V, parce que la Saint-V Event, donc l'événement lancé par la CE et avec le concours précieux du cercle informatique, a permis de maintenir une part de folklore et une solidarité. Bon, là, on parle même pas de maintenir, exploser la dose de solidarité qu'on pouvait envoyer. Mais annulée, à mon avis, dans l'impact qu'elle a eu, puisque beaucoup de chatons, donc de B1, sont beaucoup moins au courant, beaucoup moins au fait de ces festivités. Ils n'ont pas pu faire de baptême en plus. Et c'est comme ça qu'on arrive à des étudiants qui ne veulent ou ne savent même plus dans quoi consiste un summer, en quoi consiste un cri de cercle, que représente le 20 novembre, pourquoi ils ont congé, etc. Et je pense que c'est là que ça le fait le plus mal et qu'on peut considérer qu'elle a été annulée parce qu'elle va porter préjudice, à mon avis, et à long terme, comme toute la situation qui nous occupe, aux étudiants et à leur folklore.
À long terme, je ne sais pas, en tout cas, aussi long que le coronavirus durera, j'imagine, mais l'impact premier, peut-être le plus important à mes yeux, à moi, ce serait la bonne action que représente de faire la Saint-V quelque part, comme tu as dit qu'il y avait toujours un côté social et tout ça, à la Saint-V, il a été là. Il a été même beaucoup plus...
On a récolté plus de 16 000 euros, je ne sais plus exactement combien pour le cercle. Mais,
3, 4, plus ?
Plus.
6, mais, tu sais ?
Non, je ne sais pas.
Okay.
le cercle était présent, et du coup, ça, effectivement, c'est plus que bienvenu, et on en profite pour remercier encore tous ceux qui ont fait des dons lors de cette Saint-V en ligne. Vous êtes incroyaux. Oui, on a pu s'amuser, on a expérimenté aussi de nouvelles choses. C'est grâce à ça, entre autres, qu'il y a une radio aujourd'hui. Les idées tombent en cascade. Mais en tant que vieux con, avant l'heure, je trouve qu'elle a été annulée.
Alors moi, j'aurais plus tendance à la comparer à la Saint-V de 1938 et 1939, qui à proprement parler a été annulé, mais les quêtes ont... le social a continué, Et au final, le message de la Saint-V, il reste, puisque c'est des étudiants qui boivent, qui se rassemblent et qui sont heureux d'être à l'ULB.
Oui, en fait, je pense que la Saint-V cache énormément de choses derrière elle, que ce soit le côté social ou que ce soit juste l'apprentissage de certains étudiants ou bien la finalité d'un baptême, comme on peut appeler ça actuellement. Enfin, alors, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait penser. Et les gars, je vous propose de conclure quelque part.
S'il y a un message à envoyer avec ce podcast, parce que je pense que beaucoup d'anciens... C'est un podcast déjà plus connu de ceux qui s'intéressent à l'histoire du folklore, mais qui paraîtra très étranger aux nouveaux venus. Et c'est une histoire qui est la vôtre. Maintenant que vous êtes à l'ULB, elle est absolument la vôtre. Vous devez vous l'approprier, vous pouvez en être fier, vous pouvez la célébrer et on espère qu'on pourra la célébrer ensemble dès l'année prochaine. Et si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de creuser ces histoires, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous en demander plus.
Écoutez les potes, je pense qu'on est bon pour clôturer ce petit podcast sur la Saint-V.
Qui était moins bien que le précédent.
Qui était moins bien que le précédent, évidemment, car c'était mieux avant. Mais... qui était quand même très très chouette parce que le présent était incroyablement chouette et n'hésitez pas à faire des petits commentaires à étoffer nos recherches si vous avez des choses à dire sur ce qu'on a dit du coup, si vous avez des éléments à apporter sur des photos ou quoi qui datent d'il y a longtemps, avec plaisir qu'on les prend et à bientôt.
Juste un thème qu'on a peu abordé mais qu'on réabordera, c'est le thème des caducées et Saint-V qui ont quand même jalonné toute l'histoire et qui ont énormément de contenu et énormément de blagues, mais ne vous inquiétez pas, chers auteurs du caducée, on en reparlera très bientôt.
Tu peux dire à bientôt à ma place maintenant.
Et du coup, je vous salue, merci de nous avoir écoutés.
Bisous.
Au revoir.